Ben, nous voilà. Tout le monde est toujours là?
Ça a l'air.
Oui.
Ouais, OK. Je ne sais pas si on a récupéré encore le monde. Là. Et j'ai marqué de faire stop-play dans la salle. Mais en tout cas, puis le monde a dû passer leur temps à faire stop-play. On avait-tu d'autres nouvelles?
Ben moi.
Ah, OK. Peter, il dit ça marche. Parfait. On est revenu.
Ben que moi, je vous quitte.
Oui, parfait. Salut. Bonne journée. Hein.
Ouais.
Bon, on est tous disparus. Non, c'est pas vrai. On est là. Et oh! Ah, OK, ben moi j'ai perdu Billy Jack. Il faut que je le demande. C'est vrai, c'est que c'était lui qui l'avait demandé. Ouais, t'étais passé où?
Ben j'étais là, je vous entendais. Moi, j'étais sur l'autre ligne. Là. Ça doit être parce que c'est toi qui m'avais appelé.
Ouais, t'as disparu. Non, je sais. Là.
OK. Un traitement capable de guérir le cancer. N'importe quel cancer.
Ah, j'avais tombé sur ta nouvelle-là. Si je l'avais, c'était vas-y, c'était intéressant probablement.
Ouais. Cette nouvelle avancée médicale a des airs de science-fiction. Pourtant, les chercheurs ont découvert un traitement capable de réduire, voire de guérir toutes les formes de tumeurs. Pour le moment, seules des souris ont été sauvées, mais c'est un très bel espoir qui se profile. Bon. L'article paru dans Proceedings of the National Academy of Science explique qu'un nouveau traitement médical est susceptible de réaliser des miracles. Il se base sur un anticorps qui paralyse le signal émis par les cellules malades, indiquant au système immunitaire de ne pas les détruire. Plus précisément, l'objectif de ce remède est de bloquer l'action d'une protéine appelée CD47. À la base, ce marqueur est présent dans notre organisme. Il indique au système immunitaire de ne pas détruire les cellules sanguines saines. Seulement, cette même protéine est employée par des cellules cancéreuses, empêchant leur destruction et participant de ce fait à leur propagation. Ainsi, en bloquant cette protéine à des endroits stratégiques grâce à l'anticorps, Irving Wiseman précise que les tumeurs sont guéries dans le meilleur des cas. Si ça n'a pas toujours été aussi faste, le traitement réussit à ralentir la croissance de la tumeur et même à prévenir les métastases et récidives. Au cours des dernières années, la technique a déjà été appliquée au traitement des lymphomes et leucémies. Mais cette dernière recherche suggère qu'elle pourrait être utilisée sur tous les types de cancers. À ce jour, il a été démontré que ce traitement agit positivement sur de nombreuses sortes de tumeurs chez la souris. Citons les cancers du sein, ovaire, colon, vessie, cerveau, foie et prostate. Ouais, tu as fait quasiment tout le tour. Hein.
Ça doit être bizarre, une souris avec des seins.
Ouais, c'est une petite figue, là. Une question se pose naturellement. Après injection de l'anticorps bloquant l'action de la protéine CD47, que deviennent les cellules saines alentour, dorénavant sans défense contre le système immunitaire? Ah, intéressant. Les chercheurs expliquent que certaines cellules ont bel et bien été attaquées, mais ils ont constaté que ce fut de courte durée et négligeable par rapport aux effets sur la tumeur. Évidemment, cette étude n'en est qu'à ses balbutiements. Et les tests n'ont été effectués que sur des souris. Toutefois, c'est un très bel espoir, à tel point que les scientifiques ont reçu une subvention de 20 millions de dollars pour passer à des tests cliniques sur des humains. OK. Mais d'après moi, ces gens-là, là, ces chercheurs-là, ils connaissent pas le docteur...
Lui, l'Italien, là?
Ouais, comment est-ce qu'il s'appelle, là?
Et bonne question.
Simoncini. C'est Dr. Simoncini qui, lui, ça fait des années qu'il guérit les gens du cancer et pourtant, on le bloque un peu partout sur les médias en Europe puis en Italie. C'est cute,
Père. Oui, puis pour ceux qui écoutent, qui seraient peut-être du domaine médical puis qui ne seraient pas trop, là, c'est pas un illustre éliminé, c'est vraiment un oncologue puis il pratique toujours, on ne l'a pas radié. Puis il est en Italie dans un hôpital puis il soigne du monde puis je pense bien qu'il n'est pas poursuivi. C'est à cause que s'ils essayent de le poursuivre, il va sûrement avoir plusieurs patients qui vont venir témoigner. Êtes-vous vivant? Oui, je suis vivant, là.
C'est pas juste ça. Si tu le poursuis, tu sais que ça s'en va à la télévision mais ça s'en va dans les journaux.
Ben oui.
Puis là, non, ils veulent pas y faire de pub.
Probablement, ils veulent mieux laisser ça mort, là.
Ben oui.
C'est durant ce temps-là, ben, il y a des ils laissent des patients morts aussi.
C'est ça, puis tu sais, c'est payant. Le puis là, tu vois, s'ils servent d'une protéine comme ça, bon, mais ben, ils vont mettre un brevet là-dessus, puis ils vont ils vont faire de l'argent. Là.
Mm-hmm.
Parce que du bicarbonate de soude, là, comme il prend le docteur Simoncini quand il soigne le cancer, c'est pas ça qui coûte cher. Là.
Non, mais donner à moi, ça coûte pas cher non plus. Hein.
Comment?
De l'aramon. Du bicarbonate de soude.
Ah, mais... Essaye d'en prendre...
Peut-être pas tu t'as fait la même bicarbonate de soude, là, mais regarde. Même si ce serait trois fois le prix.
Essaye de prendre du bicarbonate de soude plus biologique, parce que ceux qu'on trouve, c'est les tablettes, il y a des...
Oui, il y a des traces d'aluminium.
Des particules d'aluminium dedans, donc... ton système, tu soignes pour quelque chose, mais l'aluminium,
ça va te bloquer
dans le cerveau. Fait que, pas trop bon. Là. Mais enfin. Peter Pan et Mark Jack Layton n'étaient pas au courant, ça, c'est sûr. Regarde, je suis d'accord avec toi. Là. Regarde, tu sais, les politiciens ne sont pas au courant de tout. Hein. On se comprend qu'ils écoutent le médecin, puis bon, ben, c'est comme ça, puis c'est tout. C'est la fatalité. Il n'y a personne qui cherche, puis. Surtout pas dans ce domaine-là.
Il y a peut-être des médecins aussi qui savent un peu plus, puis ils n'osent pas trop. Si on a le collège de médecins qui est au-dessus, puis ils savent s'ils bougent trop, ils pratiqueront plus. C'est quasiment fou, Red. La mafia médicale. C'était le titre d'un des livres de Guylaine Langteau dans le temps. Là. Ça portait bien son nom.
Oui, mais c'est comme la vitamine B17. Chris, ils ont prouvé que c'était bon contre les cancers, mais non, c'est juste au Mexique que tu as le droit de te faire soigner avec ça. Aux États-Unis, tu n'as pas le droit.
Je ne sais pas si Guylaine Langteau avait raison sur tout, mais j'y donnerais au moins 90 en montant.
Ben moi, je te dis que moi, je l'ai lu son livre, je l'ai encore ici, puis des fois, je m'en sers comme ouvrage de référence parce que je peux te dire que ce que j'ai lu, là, tout au complet, il n'y a pas grand-chose de pas vrai là-dedans.
Puis ils m'ont dit que son livre portait bien son nom. Hein.
Tout à fait. Écoute, de plus en plus, ça sort. Écoute, il y a des procès contre des compagnies pharmaceutiques à cause des médicaments qui étaient toxiques et que les études avaient été cachées. C'est sûr qu'ils ne font pas la première page. Hein? Mais bon,
ça combien d'affaires qui devraient pas passer et qui passent? Même l'aspartame, ils avaient essayé de faire passer ça plusieurs fois, je pense, avec, je ne sais pas si c'est la FDA ou comment on appelle ça, là, mais en tout cas aux États-Unis. À un moment donné, ça a fini par passer, mais en tout cas, c'est un poison.
L'aspartame, oui, c'est sûr.
Ça n'a rien à voir avec les médicaments, là, mais...
Regarde qui c'est qui a les brevets de l'aspartame. Tu vas comprendre comment ça se fait que c'est pas bloqué, cette affaire-là.
Oui, il y a de l'argent derrière aussi.
Je me trompe pas, c'est
comme les compagnies pharmaceutiques, il y a de l'argent derrière aussi.
Oui, c'est sûr. Écoute, c'est toujours arrangé. La gang de qui était avec Bush, le Rumsfeld, puis Dick Cheney, ils ont des actions dans toutes sortes de produits toxiques, puis la FDA les bloque pas. Écoute, c'est normal, c'est eux autres qui ont acheté les brevets.
Il y a Peter Pan qui marque Monsanto. Je ne sais pas si l'aspartame, à un moment donné, le brevet avait appartenu à Monsanto. Ça se pourrait bien.
Ben, je sais que les brevets, c'est
un voyage.
Bush qui les a achetés. L'aspartame, là, ça c'est...
Il y avait l'Asie, à un moment donné, je pense, dont le Japon, qui les autres, l'aspartame, ils n'en voulaient pas. Puis, ils disaient que c'était mauvais pour la santé, ou je ne sais pas trop, mais quelque chose du genre. Puis, les autres, à la place, ils ont plutôt fait rentrer une espèce de substitut de sucre, mais qui est naturel. Puis, d'ailleurs, qu'il y avait, comment il s'appelle, Nenki, qui en fait la promotion un petit peu, ou qui en faisait la promotion, là, puis que je cherche le nom que j'oublie. Hein?
La Stevia?
C'est en plein ça. Ben, les autres ont laissé passer ça, mais ils ont bloqué par contre l'aspartame. Ils disent l'aspartame, c'est bonne valeur, ça ne rentre pas sur nos tablettes.
Ouais, mais tu sais, ça, le Japon, c'est une puissance. Hein, tu ne lui fais pas faire ce que les Américains veulent. Ils tiennent le bout, là, même si.
Ouais, puis s'ils tiennent trop leur bout, mais on va leur causer une catastrophe, peut-être.
Ouais, mais c'est pas grave, s'ils continuent pareil. OK. Pas compliqué. C'est tout ça le MMS. Peter Pan, il demande si c'est ça le MMS.
Oui, mais c'est l'affaire que tu faisais allusion probablement tantôt pour le cancer, puis se demandait si ça avait rapport au MMS, que je connais pas
non,
du tout.
Non,
là,
non.
Mais
le MMS, c'est autre chose, mon ami. C'est un autre produit, ça. C'est un chercheur en Afrique qui a découvert ça. Je me souviens plus de son nom, d'ailleurs. J'avais déjà fait venir une bouteille de ça. J'avais déjà essayé ça.
Il y a Q3, je pense, qui a déjà essayé les MMS aussi.
Oui, je pense que oui. Mais je pense qu'il y en a encore, de toute façon. Mais lui, je pense qu'il avait réussi à l'acheter en capsule, je ne me trompe pas. Star, il y en a en capsule. Moi, j'avais fait venir en liquide.
Puis à un moment donné, il disait le MMS, c'est dangereux, puis envoyez donc. Je ne peux pas dire à quel point ça peut être dangereux, mais il y a combien d'enfants qui sont dangereux dans les compagnies pharmaceutiques aussi.
Turpin, il vient de marquer. Certains journalistes soutiennent que la FDA a pris des décisions sous l'influence de Donald Rumsfeld, ancien PDG de Seal, qui a été secrétaire général à la Maison-Blanche avant d'être ministre de la Défense sous Gerald Ford et George W. Bush. Par ailleurs, en 1985, Monsanto fait l'acquisition de GD Seal. Ah, OK, Seal. Et prépare Seal Pharmaceutical et NutraSweet Compagnie en filiale, 25-22. Selon le Chicago Tribune, cette transaction aurait rapporté 12 millions de dollars. Ouais, c'est ça. Parce que c'est lui qui avait acheté le brevet.
Okay.
De l'aspartame, puis il l'avait revendu. Mais, tu sais, il fait une fortune, puis il reçoit des redevances en plus. Fait que, il est mort de rire, le bonhomme. Là, tu sais. C'est ça, les dirigeants de certains pays.
On est bien dirigés.
On a de l'argent sur la mort du peuple. C'est payant. OK.
Moi, je suis en train de préparer quelques playlists. OK, ça, ça se fait tout seul, pas de problème. J'avais ramassé un article de Benjamin Fulford qui pourrait peut-être être intéressant. En tout cas, c'est sûr qu'il n'est jamais digne de sans intérêt. Il faut toujours jeter un coup d'œil à cause de Benjamin Fulford et même bien des affaires qui se révèlent vraies par la suite aussi. Benjamin Fulford, dans son émission japonaise, dans cette dernière émission de Benjamin Fulford au Japon, il a invité Alexander Romanov. Supposément, c'est un Illuminati. Et le président de la Société mondiale des arts martiaux. Il répète un peu ce qu'il dit dans son dernier billet, traduit sur Radio News. Attendez une petite minute. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il présente un Illuminati, Romanov, qui prône la méritocratie, j'allais dire la médiocratie, il ne faut pas mélanger, méritocratie traditionnelle atlante, en opposition avec les Illuminati satanistes qui prônent la violence et la médiocratie. Je ne sais pas, il faudrait peut-être rentrer les politiciens là-dedans. On y retrouve Fulford qui est le représentant de la société Dragon Blanc qui veut instaurer une nouvelle économie où tout le monde serait heureux. Finalement, nous y présente le président de la Société mondiale des arts martiaux qui, dit-on, peut soulever en moins de deux une armée de... Attendez une petite minute, t'as un gros chiffre, ça. 200 millions de combattants en arts martiaux venant de partout dans le monde. Ces combattants suivent le code d'honneur prescrit où ils n'attaquent pas les femmes ni les enfants. Seulement les soldats et les attaquants. C'est intéressant de voir toutes ces factions tenter de prendre le pouvoir avec des intentions que nous espérons bonnes, évidemment. Paragraphe en dessous. Je ne suis pas certain que de ramener la tradition atlante dans nos gouvernements est vraiment rassurant. Ça dépend de quelle façon ils veulent instaurer cette méritocratie. Est-ce que ton code génétique Non. Est-ce selon ton code génétique, selon tes expériences, selon tes connaissances, etc., ça mérite justement d'être clarifié. Si on se fie à la tradition, les Atlantes avaient une culture élitiste basée sur la technologie qui s'est autodétruite par sa propre arrogance. Romanov affirme dans cette autre vidéo, il y a une vidéo attachée, soit dit en passant au lien que j'ai donné, dans cette autre vidéo, que la cabale sataniste ne sont pas des Illuminati. Ils ont inventé les religions catholiques, musulmanes, juives, avec lesquelles Dieu est en fait Satan, selon lui. Cela serait le grand secret des vrais Illuminati. Mais enfin, il me semble que c'est un secret un secret mal gardé.
Ouais, les Atlantes. Ouais. Il me semblait que ça n'avait pas existé, que c'était une légende. Puis là, Romanov qui dit ça. OK. Intéressant.
Je vais aller voir la vidéo, pareil. Ça se peut que c'est pas une chose à passer par tout en nombre. Pas qu'il faut censurer, mais peut-être celui du japonais, puis il n'y a rien à comprendre, puis ça dure 3 heures. Là.
Je ne sais pas s'ils vont venir me recruter pour aller combattre avec eux.
My fellow humans, I am Benjamin Fulford, spokesperson for the White Dragon Society. With me here is Chodoin Daikaku. He is the head of the world's martial arts societies, and if necessary, and in an emergency, he can summon up an army of 200 million people worldwide. Here on my right is Alexander Romanov, who is a grandmaster of an Illuminati group that claims to have started the French, Russian, and American revolutions. As you may know, there has been a battle going on over the future of this planet. The Western countries have been taken over by a mafia organization, all composed of members of the same clan, and they're not Jews, okay? They worship Lucifer. And they want a world government controlled by them, with the rest of us in perpetual debt slavery and drudgery, and with no hope of ever ruling our own destinies. We offer a very different vision. We offer world peace. We offer $100,000 for every man, woman, and child to be delivered in the form of schools, hospitals, free education, nature preserves, and all the sort of things that most people want. We all want to stop world poverty. We want to stop environmental destruction. And we all wish to have a prosperous and happy and peaceful future. And that's the alternative we are offering. Thank you. Now, I'll have Mr. Ronov speak and then Mr. Chodolinson.
Hi. Yes, thank you. This is the first time I've ever been on this kind of show. So I would like to thank Mr. Chodolinson for having me. I understand that Mr. Chodoin is a good friend of Vladimir Putin, his teacher, in fact. So I'd like to take this opportunity to congratulate Mr. Putin on his election victory. He has done an outstanding job, in my view, of rescuing Russia from the parasites who tried to take over in the Gorbachev era. He's clearly the most meritorious and best qualified person to lead Russia, as was demonstrated by the will of the Russian people in the election. Now, in the Western media, there have been reports of fraudulent, flawed elections. So I want to say two things. Firstly, the corporate-controlled mainstream media is a joke, an embarrassment, and a disgrace. It doesn't really matter what they say. And secondly, as far as fraudulent and flawed elections go, surely the biggest example is the American election. What choice do the people have? Two super rich, corporate-backed candidates who will, regardless of who wins, they will represent their super rich friends, the 1%. So that's my opinion. And good luck to Mr. Putin. I hope he continues to do a very good job, as he has done so far.
Okay, Chodoin san.
Do you
want
to translate?
Yeah. What?
Do you
want to translate? 彼はですね、今言ってたことは、まずプーチンがですね、そのロシアから規制中道も。
Bon, je vais interrompre un peu, que ça dure quand même 14 minutes. Puis,
ouais, là, t'es rendu en japonais. Là, je peux pas traduire. Tu comprends, mon japonais est assez loin, merci.
Ouais, mais tu devais remonter ça, tes vies passées. Il faut se forcer un peu dans la vie.
Ouais, c'est ça. Je vais m'y remettre. On va mettre aux arts martiaux, là, puis je vais me remettre. Il va peut-être finir par me faire ramasser par la gang du dragon blanc.
Là, ils vont peut-être changer de couleur après.
Non, c'est, parce que c'est vrai que, en tout cas, moi, quand je pratiquais les arts martiaux, on ne s'attaquait jamais aux femmes pour aux enfants. Enfin, je ne suis pas rendu là.
Oui, c'était pas mal ma dernière nouvelle. Sinon, il faudrait que je fouille un petit peu. Je ne sais pas ce que tu pensais.
Fouille, moi, fouille, moi j'en ai. Oh, calvaire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Aïe. Attends un peu.
Je vais fouiller en attendant.
OK. On va fermer ça. Le déclin des abeilles, mon cher ami, accéléré par les pesticides. Il me semble que ça fait longtemps qu'on l'avait déjà dit, mais là, ça sort d'un journal.
Ouais, ben ça a déjà sorti un peu. Tu veux dire que ça sort plus que ça sortait?
Plus la recherche scientifique avance, moins il devient possible de contester la nocivité des pesticides sur l'environnement. Ben oui, ça a donc pris du temps avant que ça sorte. Pour son rôle d'éclaireuse en territoire de plus en plus miné, l'abeille a déjà fait l'objet de nombreux travaux. Elle a droit cette fois à deux études publiées dans la revue Science du 29 mars, inédites par la technologie retenue et parce qu'elles ont l'une et l'autre opté pour des conditions réalistes plutôt que pour des expériences de laboratoire. Toutes deux soulignent l'impact des néonicotinoïdes, la famille d'insecticides la plus répandue dans le monde, sur les pollinisateurs. Diffusés à travers le nectar et le pollen des fleurs cultivées, comme le maïs et le colza, ces produits chimiques agissent sur le système nerveux central des insectes. L'équipe française a placé avec de la colle à dents une minuscule puce radio d'identification RFID sur le thorax de 653 abeilles mellifères. Les chercheurs voulaient vérifier si, comme certains agriculteurs en avaient formulé l'hypothèse, leur sens de l'orientation pouvait être perturbé par l'un de ces pesticides, en l'occurrence le thiamethoxane, merc, rien que le nom m'écœure, que l'on trouve dans plusieurs produits, Cruiser, Flagship, Ilium, Axoris. Après avoir absorbé les sorties et les retours de leurs petites protégées individuellement grâce à un lecteur électronique, ils ont constaté que 10 à 31 % de celles qui étaient intoxiquées se montraient incapables de rejoindre leur ruche. La perte de repères joue effectivement un rôle significatif dans le syndrome d'effondrement des colonies. Même lorsque les butineuses n'ont absorbé que de faibles doses de ces pesticides, loin de leur ruche, elles meurent 3 fois plus que le taux normal. Aïe, aïe, aïe. Un bourdon sauvage qui perd l'appétit. Même si les scientifiques prennent soin de préciser que cette orientation perdue n'explique pas à elle seule le déclin catastrophique des abeilles, leur conclusion ne risque pas de passer inaperçue au ministère de l'Agriculture. Le gouvernement s'obstine en effet à autoriser le cruiser, tandis que les agriculteurs et les défenseurs ne cessent de réclamer l'interdiction. Or, l'étude a été dirigée par Michael Henry, biologiste de l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, et Axel de Courty, écologue pour le réseau des instituts des filières agricoles et végétales, l'ACTA, des organismes de recherche publique par des officines écologistes. La deuxième recherche menée en Écosse s'intéresse au bourdon sauvage, Bumbus territrix, un beau petit nom, qui souffre lui aussi de déclin, bien qu'il tienne un rôle essentiel dans la pollinisation des fraises, framboises, myrtilles et tomates, entre autres. Celui-ci, jusqu'à présent, bénéficie de moins d'intérêt de la part des chercheurs. Excusez. Penelope Whitehorn et Dave Goulson, biologistes de l'Université de Stirling, ont confronté des colonies de bourdons en développement à de l'imidacloprides.
Allô, le nom.
Tu le prononces, tu tombes malade. Un autre néonicotinoïde présent dans le gaucho, Cowboy 350, Confidor, Provado, parmi d'autres. Les doses utilisées étaient comparables à celles que butinent les bourdons. Au bout de 6 semaines, les chercheurs ont observé que les nids contaminés par le pesticide avaient pris 8 à 12 % moins de poids que les colonies témoins. Ils en déduisent que les insectes étaient moins nourris. Surtout, les nids avaient produit 85 % moins de reines. Wow! Ce qui peut signifier 85 % de nids en moins l'année suivante, rappellent les auteurs de l'étude. Ça, Nenki n'avait parlé souvent sur son site, justement, de l'effet des pesticides sur les abeilles, puis il expliquait que si tu n'as plus d'insectes pour butiner ou faire la pollinisation, on est dans la merde, dans
ce
sacré.
Ouais, mais c'est quoi ce que. Il y a de l'auto-pollinisation, je pense, qui existe, je ne suis pas certain. Ça peut polliniser un petit peu, peut-être par les vents, mais la majorité mondiale de la pollinisation, là, c'est les insectes. Ça fait qu'enlève les insectes qui pollinisent, on a un problème.
Ben, c'est parce que le reste de la culture prend un astuce de débarque.
Ben oui. Puis c'est pourquoi qu'il y en a qui prennent les services des apiculteurs. Ben, c'est parce qu'ils veulent des fruits, ils en font pousser comme au Québec avec les pommiers. Là. C'est pas rare qu'on voit un pommiculteur amoncer des pommes ici. Puis tu peux des fois voir des ruches d'abeilles qui est mis en quelque part dans un coin.
Oui, effectivement. C'est assez. En tout cas, c'est spécial. Il faudrait peut-être qu'il y ait un gouvernement qui se dépêche à arrêter ça, ces produits-là, parce que sans ça, il va être trop tard.
Là. Il y a peut-être bien des affaires à changer.
Ah oui, il y en a un citron à changer.
Dans le inusité, j'aurais peut-être quelque chose inusité ou insolite. Un peu spécial, enfin un copier-coller. C'est quand on manque de nouvelles, on cherche dans les affaires fantaisistes. Fusillade mortelle provoquée par une pénurie de bière. C'est là, je ne sais pas c'est quoi la date. Dimanche dernier, une adolescente organisait une fête dans le comté rural d'Ellis, au Texas. Les célébrations de son 15e anniversaire ont tourné au cauchemar lorsque deux groupes se sont disputés à propos d'une pénurie de bière. Les membres de la famille ont exprimé leur mécontentement par une violence inouïe. Une personne a été tuée et 7 autres blessés. Parmi les victimes, 4 ont été touchés par balle, 2 ont été poignardés, 2 autres ont été battus à l'extérieur de la maison. Tout était des adultes, à l'exception des enfants d'un enfant de 11 ans, atteint d'une balle à l'estomac qui devrait survivre aux blessures. Puis là, ben, ça continue. C'est fou le monde un peu.
Hein. Tu dis à cause qu'il manquait de la bière, ils se sont entretués?
Ouais.
Ben voyons donc.
C'est ça. Ben, va voir le lien.
Mais
je vais aller voir la source même.
J'espère que les Québécois... Si
la source, ça serait cbsnews.com.
Provoqué par une pénurie de bière. Ah ouais.
CBS News, je pense bien, c'est un média officiel. Ça doit être de la TV, probablement. Ouais, ça ressemble à ça.
Eh bien, cauchemar. Ah ouais.
c'est peut-être, ils sont rendus fous, là, un peu comme les chiens. Là. Il y a un gros nonos, faut pas que tu leur envoies, tu leur enlèves le nonos.
Ouais, mais d'après moi, il t'a pas rien que sa bière, si t'en penses.
Ça se peut, mais il y en a qui capotent sérieux, hein, des fois. Mais il devait te réchauffer avec d'autres choses.
Peut-être, mais même là, d'après moi, il y a de la bière là-dedans, certain. Là,
ben, peut-être un petit peu de drogue, un petit peu trop de boisson, un petit peu d'harpe, un petit peu de main des affaires, puis ça y est, bing.
Ouais, c'est ça. Ben, ouais, ça fait un méchant mélange, ouais. Aïe, aïe, aïe. Eh ben. Je suis en train de chercher d'autres choses, mon cher ami. Je suis pas mal à la cour, moi.
OK, je pensais que tu avais plein de nouvelles.
Non, on n'avait pas plein. Ben, tantôt, au début, mais je me battais avec la salle de chat.
Ouais, la salle de minou.
La petite salle de minou. Je comprends pas pourquoi on ne peut pas continuer à appeler ça salle de communication, mais enfin. Bon, OK.
Ben, c'est un commentaire.
Non, mais d'après moi, je pense qu'on va clore ça, mon ami.
Ouais, ce serait peut-être mieux. H2O Radio Show, demain 13h, en principe, on devrait toujours être là comme d'habitude. À soir, je sais pas c'est quoi.
Jeudi, mais il n'y a rien.
Il n'y a rien?
À moins que tu veuilles en faire un, mais il n'y a rien.
Ouais, il n'y a rien de prévu. Attends un petit peu. Radio.
Il va peut-être avoir des reprises de Kraken.
Ouais, ouais. Puis moi, il faudrait que je fasse un ménage dans les affaires qui streament par défaut, là. Mais j'avais un accès, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de l'accès. Attends un petit peu. Ah oui, il fallait que je demande ça à Kraken. Pas à Kraken, à Q3, justement. Oui, jeudi, ce serait le copieur. Puis, ben justement, la pieuvre n'est pas là.
Non. Il est assez dur à rejoindre, d'ailleurs. C'est à toi, Peter Pan. Merci à Dédé. Merci à... Merci à tous ceux qui écoutent sur les autres stations là, en diffusé. Là. Et on va vous dire C'est demain, à 13h.
Ça fait que... Même heure, même poste. On était le 29 mars 2012, puis on va être de retour demain, 30 à 13h.
C'était le 29 mars 1900. Aïe, attends, allez-vous-en pas tout de suite, j'ai pas fini quelque chose pour vous autres.
Ouais, je vais étirer la musique. Là.
Ouais, tire-la. Attends un petit peu.
Tu peux pas l'étirer plus que 41 minutes.
OK, c'est beau, parfait. Ça prendra pas ce temps-là. C'est parce que j'ai écouté en reprise un asti. Excusez-moi, je vais pas peser sur le bon lien. Attends, je reviens.
En passant, en attendant, il y avait Peter Pan qui demande des nouvelles de Kraken. J'ai pas vraiment de nouvelles. Il est toujours vivant, la dernière nouvelle. Mais il était passablement occupé, puis il est toujours dans ses projets, puis en même temps, il a hâte que tout débouche. Là. C'est bien dur, des fois, de tout faire en même temps.
Exact. C'est parce que hier, en faisant... c'est d'ailleurs bizarre, je faisais des recherches sur... une certaine musique tranquille, mettons.
Mm-hmm.
Et je suis tombé, je ne sais pas trop comment ça, sur... Ben, j'écoutais l'émission de... comment ça s'appelle? En direct de nulle part. EDDNP, dans la reprise. Et je ne me souviens pas de l'émission, mais il parlait de la voiture électrique. Et j'ai trouvé un petit lien des plus intéressants. Quand on nous dit que la voiture électrique, que ça fonctionnerait pas ou si ça, il faut toujours qu'ils trouvent un moyen pour que, tu sais, ça soit que le monde paye en bout de ligne tout le temps.
Mm-hmm. Il faudrait surtout pas que la voiture électrique produise sa propre électricité avec rien. Là, ça serait bien le pire. Là. Tu mets juste de l'eau, puis...
C'est ça, un petit peu. Là,
genre, ou en plus, disons que, en plus de pouvoir faire de l'engrais, tu pisses dans ta voiture, puis t'es bon, tu t'en fais le tour du Canada. Là.
Exactement. Et voici le lien en question, pour ceux que ça peut intéresser. Voilà. Ça, c'est à peu près l'historique de la voiture électrique à partir de 1900. Et à travers, je ne sais pas si c'est sur cette page-là, je vais vérifier, voir s'il en parle. Pas celui-là. OK. Donc, je vais vous mettre un autre lien où il parle de.
Début de la voiture électrique jusqu'en 1900.
Ouais, attends un petit peu. Je vais aller chercher. Là, attends un peu ce qu'elle est. Ah, là, voilà. Ça, c'est assez spécial. Et on n'entend pas parler souvent. J'ai trippé quand j'ai vu ça. Ici. J'avais une photo. Je sais pas ce qu'elle a. Merde, j'avais une photo de la voiture en plus.
Tu cherches la jamais contente peut-être?
Non. Okay. Non. Une voiture vraiment à énergie libre là, de Nikola Tesla qui avait. C'est lui qui l'avait faite là.
OK.
Peut-être un peu le maudit d'arbre, j'ai vu ça.
Ils l'ont peut-être mis à Fourrière, c'est pour ça que tu ne trouves pas.
Ouais, mais attends un peu. Là. Non, on va le retrouver certain. Okay. Au cours de l'été 1931, Dr. Nikola Tesla fit des essais sur route d'une berline Pierce Arrow, haut de gamme propulsée par un moteur électrique à courant alternatif, tournant à 1800 tours minute, alimenté par un récepteur de l'énergie puisée dans l'éther partout présent. Si je peux te trouver. Maudite, je sais qu'ils me l'ont mis.
Attendez, il y a Peter Pan qui avait donné un lien. Ouh, c'est une vidéo, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de partir maintenant, par exemple. Ouais, maudite pub en plus. Non. Attends, je vais fermer ça, là.
Je pense que je l'ai retrouvé. Attends un petit peu.
Ça embarque sur la même carte de son que pour la musique, là, il y a un problème.
Je pense que c'est ici.
Mais c'est un lien que j'ai vu par rapport au moteur roue de Pierre Couture. C'est ça, c'est intéressant.
C'est celle-là. OK. Bien. Copier. Coller. Pif. Celle-là. Puis, dans la page, tu peux descendre un peu plus loin. Tu vas voir la voiture que Nikola Tesla avait. Tu as une photo de la voiture. Là, tu as des plans aussi de plein de choses. En 1931, une Pierce Arrow roule avec un moteur électrique de Tesla. Là, tu vois la photo de la voiture.
Il y a dû prendre un modèle existant, par contre, qui qu'elle se modifie, ou ce que je vois le look.
Il change le moteur. C'est une Pierce Arrow, une voiture luxueuse de cette époque qui avait été mise à l'abri.
Je la prendrais bien, sa voiture.
Pas loin des chutes du Niagara. On avait enlevé le moteur sans toucher à l'embrayage, ni à la boîte de vitesse, ni à la transmission. Ni à la transmission aux roues arrière. Le moteur à essence avait été remplacé par un moteur électrique totalement fermé, cylindré, d'environ 1 mètre de long et 60 cm de diamètre, muni d'un ventilateur de refroidissement à l'avant. À ce qu'on dit, il n'y avait pas de distributeur. Tesla ne voulait pas dire qui avait fabriqué ce moteur, mais il s'agissait probablement d'un département de chez Westinghouse.
Oui, parce qu'il a été subventionné beaucoup par Westinghouse. Puis à un moment donné, quand il a voulu proposer l'énergie gratuite pour tout le monde, on va l'oublier là, lui-là. Là.
Ouais,
il est mort dans l'oubli, puis pourtant, il doit beaucoup.
C'est Westinghouse qu'ils avaient récupéré. Le récepteur d'énergie convertisseur d'énergie gravitationnelle avait été fabriqué par Tesla lui-même. Le boîtier du convertisseur mesurait environ 60 par 25 par 15 cm et était installé devant le tableau de bord. Le convertisseur contenait entre autres 12 tubes à vide, dont 3 de type 70L7, une lourde antenne d'environ 1,8 mètre de long en sortait. Il semble que sa fonction était identique à celle du convertisseur de Moret. En outre, deux grosses tiges sortaient d'environ 10 cm du boîtier du convertisseur. Tesla les poussait en disant « Maintenant, nous disposons de l'énergie. » Le moteur tournait au maximum à 1800 tours par minute à Yesti, sa vie. Il avait besoin d'un ventilateur pour être refroidi. Tesla ajoutait que le convertisseur était suffisamment puissant pour éclairer aussi, en plus, toute une maison. Yesti, tu fais un char de même.
Ben, la vitesse, ça ne m'impressionne pas trop pour un moteur électrique, parce que même les voitures à essence, ça va souvent peut atteindre des pointes peut-être de 8000 tours, 8000 RPM. Là. Puis les dans essais, les Formule 1, c'est plus vite, mais...
Je peux finir, Gandalf, s'il te plaît. Les essais ont duré une semaine. Les 130 km à l'heure ont été atteints sans peine. Mm. Les données des performances étaient comparables à celles des automobiles à essence. À un stop, un passant a remarqué qu'aucun gaz ne sortait du tuyau d'échappement. Et Peter lui dit, « Nous n'avons pas de moteur. » Quelques mois après ces essais, en raison de la crise économique, Pierce Arrow arrêta sa production. Ah bon, il est très probable que la connexion entre moteur électrique et transmission avait été réalisée dans cette compagnie. Studebaker, dans le South Bend, a racheté le matériel de Pierce Arrow. Moins de 30 ans après, cette société disparaissait pour former, avec Nash, American. Plus tard, certains des fans de Pierce Arrow essayaient, même sans succès, de faire revivre cette compagnie dont le nom figure aujourd'hui dans un mausolée en compagnie de Horsch, Maybach, Hispano Suiza, Bugatti et Isotta Fascini. Tesla savait bien que tout ceci est en contradiction avec les concepts techniques de son époque. C'est pourquoi il évitait les discussions avec les ingénieurs, les théoriciens ou les compagnies, à des rares exceptions près. Cette voiture avait bien évidemment été construite seulement pour le plaisir, mais elle annonce celle du futur, économique et non polluante. Sauf qu'on les verra jamais. Mm. La manière que c'est parti là.
Ben là, c'est à voir avec l'évolution, vers où qu'on va s'en aller. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des changements. Mais...
Savais-tu que Nikola Tesla avait déjà dessiné des ovnis?
Ça me surprend à moitié. Il était assez visionnaire aussi. Hein.
Oui, il avait dessiné des ovnis en forme longue. Là. Tu sais, les grands tubes qu'on voit là, des fois. Là. Ça a l'air qu'il avait fait des schémas là-dessus. Puis,
il y avait des rumeurs comme de quoi que même Tesla aurait été en lien avec des Vénusiens.
Oh,
de là à 10, c'est vrai, je peux pas dire. Mais je dirais, par contre, ça me surprendrait pas.
Il n'y a plus rien qui me surprend, à me dire.
Même les politiciens ne me surprennent pas.
Serpent nous parle de l'émission Découverte. Moteur, oui, pire. Ah, Pierre Couture, oui, au Québec.
T'avais-tu dit que dans la liste de compagnies de voitures, il y avait Bugatti qui n'existait plus?
Ouais, ben c'est comme dans un. Ça a l'air que c'est ça, là.
Il y a peut-être une erreur, parce que Bugatti, je pense, ça appartient maintenant à Volkswagen. Puis,
ouais, mais ça a changé de nom, autrement.
Ouais, ben c'est ça. C'est plus l'original, là.
Ouais, c'est ça. Mm. Donc, tu sais, ça peut, peut-être qu'ils ont racheté ces compagnies-là parce que justement, ils s'en allaient trop vers les voitures électriques. Mm. C'est ça. Il y a un des liens que j'ai mis, là, écoute, t'as des voitures électriques, t'en as toutes sortes de modèles, de toutes sortes d'époques, là. Puis. Mais c'est ça. Sont toutes,
Parce que la Veyron de Bugatti, c'est qu'il y a une filiale de Volkswagen, ça existe. Là. C'est un méchant monstre comme voiture. Mais le ridicule là-dedans, c'est un moteur monstre, ça consomme de l'essence, c'est incroyable. Ça a 11 radiateurs pour refroidir cette bestiole-là. On est dans le ridicule. Quand on pourrait avoir des voitures performantes aussi, puis probablement qu'ils ne nous coûteraient rien à faire rouler là, à part l'entretien.
C'est José, un peu, puis moi, là. C'est pas. C'est, quand tu dis que ça existe, écoute bien ça. 1823-1860, le tout premier pas du moteur électrique grâce à T. Davenport et P. Barlow. La première moitié du 19e siècle n'a pas encore consacré la fée électrique. C'est la vapeur qui est la source d'énergie privilégiée par les innovateurs de tout genre. Cependant, excusez-moi. La cigarette. Cependant, certains animés par leur conviction intime des pouvoirs de la houille blanche travaillent, imaginent et créent dès 1923. L'anglais Peter Barlow parvint à faire tourner une roue sur l'action d'un électro-aimant. Très vite, l'Américain Thomas Davenport et l'Écossais Robert Davidson mettent à profit cette avancée. En 1835, l'étudiant en électromagnétisme Davenport construit un chemin de fer électrique mu par un moteur électromagnétique de son invention. Pareillement, en 1842, Davidson assemble la première voiture électrique mue par le moyen de 8 puissants électro-aimants actionnés par des piles. Imagine-toi, là, c'est pas d'hier, là, qui nous disent toujours non, ça marche pas, faut que ça soit des moteurs hybrides, ou bien des affaires de même. Ah!
Le moteur électrique a toujours été bon. Là. Il y a un taux d'efficacité facilement de 80% et plus. Le moteur à essence, combustion interne, là, qu'on appelle, en tout cas, peu importe, c'est un taux d'efficacité ridicule. On gaspille un paquet de carburant, dans le fond, qui vient polluer l'environnement. On pourrait se passer. Puis, dans le fond, le problème des moteurs électriques, ça a toujours été les batteries qui n'étaient pas à la hauteur. Mais si on peut produire l'énergie au fur et à mesure, avec la free energy ou quelque chose de même, on oublie les batteries.
Ouais.
Puis, on a la patente à ce moment-là. Tu aurais peut-être juste une batterie pour starter le phénomène, pour produire l'électricité, là. Mais une fois que c'est parti, c'est beau.
Ouais, ben regarde le moteur à Tesla, si vraiment il en faisait des voitures de même, il n'aurait même pas besoin de tu sais, t'as juste deux choses à pousser puis t'es parti. Là. Puis ça n'arrête pas, là, de l'électricité statique qu'il y a dans l'éther, il y en a partout. En tout cas. Fait que c'était ma dernière nouvelle, là, moi. À partir de là, on peut arrêter ça.
Ça fait qu'on revient demain à 13h, H2O Radio Show.
Puis, yes!
C'est ça.
Bon, ben, bonne journée à tous. Bonne fin de journée à tout le monde. Puis, vous revenez demain.
Il y a un chat qui a l'air à capoter. Il regarde les oiseaux. On revient demain.